Radio Campus Lille, il est 16h.
Vous écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. L'émission Quoi de neuf d'aujourd'hui est consacrée spécialement à la mode en région Hauts-de-France. La région Hauts-de-France a été un grand lieu de production textile. Elle reste encore imprégnée de cette histoire industrielle et des lieux continuent d'en préserver la mémoire et certains savoir-faire. Certains d'entre eux imaginent un avenir possible et surfent parfois sur la vague du développement durable pour innover et rester dans la course. Exemple à Lens, où Louvre-Lens-Vallée accompagne des porteurs de projets éco-responsables. Nous y retrouvons Romane de Marie-Claude Box et ses projets de couture.
Alors du coup, je m'appelle Romane, j'ai 23 ans et j'ai créé Marie-Claude. Marie-Claude, c'est la vente de patrons numériques et aussi imprimés ainsi que de kits de couture avec des tissus de seconde main pour apprendre la couture aux débutants. Donc le but, c'est vraiment de permettre aux personnes débutantes ou même expérimentées de coudre leurs propres vêtements plutôt que d'acheter dans les grandes entreprises. Ce sont des vêtements qui sont plutôt intemporels, donc qui sont faits pour durer toute une vie. Et aussi, on a quelques accessoires. C'est principalement du prêt-à-porter féminin. Mais j'essaye de faire quelques pièces mixtes pour vraiment être le plus inclusif possible. Et pour l'instant, on propose de la taille 34 à 44. Mais pareil, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir proposer un plus large choix de taille.
Donc, le public s'élargit, on va dire. C'est quelque chose qui était un petit peu perdu de vue, la couture, au départ.
Alors c'est vrai que la couture, c'était un peu perdu de vue. Moi, quand j'avais 16 ans, on me disait que c'était un truc de grand-mère. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma marque Marie-Claude, puisque c'était le nom de ma grand-mère côté paternel. Et aussi, chaque modèle porte un prénom ancien pour justement faire un gros clin d'œil. Mais c'est vrai que depuis que la crise du Covid-19, il y a énormément de personnes qui se sont remises à la couture, tout simplement pour passer le temps. Et aussi, en ce moment, il y a énormément de personnes qui veulent revenir vers un mode de vie plus sain et plus responsable. Donc c'est vrai que la couture, ça revient finalement énormément.
Dans les villes, on voit des petites boutiques qui se mettent en place où les gens peuvent faire des stages, des petites formations, des ateliers en fait.
Oui, justement, je propose aussi des ateliers de couture. Donc pour l'instant, j'en ai pas fait énormément puisque Marie-Claude, ça a seulement ouvert en décembre 2022. Mais je propose des ateliers de couture, donc soit avec des particuliers dans des boutiques telles que par exemple la boutique Omabel à Liévin. Ou encore, je propose des ateliers avec des structures, comme récemment j'ai pu faire des ateliers avec des femmes en réinsertion professionnelle, avec le pli de Lens-Liévin. C'est quelque chose que je propose pour vraiment accompagner, en plus de ce que je fais déjà avec mes tutoriels vidéo et PDF.
Donc actuellement, votre base de clientèle, c'est qui ?
Alors, j'ai différents types de clients. Donc, par exemple, sur le site internet, c'est plutôt une clientèle qui est assez jeune, on va dire de 18 à 30 ans. Et le restant de la clientèle est jeune quand même. Mais c'est vrai que sur les ateliers couture, j'ai plus de femmes qui ont la quarantaine. Qui cherchent un hobby aussi, ou alors qui justement avaient récupéré la machine à coudre de leur mère et souhaitent se remettre dessus. Donc la clientèle est assez variée, mais c'est principalement plus des femmes du coup qui apprennent la couture.
Donc c'est pour, on va dire, une distraction, un hobby, ou c'est peut-être des idées de développer des projets professionnels pour les gens qui viennent vous voir ?
Oui, ça peut être des hobbies et des loisirs, comme un passe-temps. Moi, je sais que c'était ma passion, donc j'en ai fait mon hobby principal. Après, ça peut être une source pour se produire une garde-robe qui nous va parfaitement, comme il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à trouver des vêtements qui leur correspondent en boutique. Donc c'est vrai que la couture, c'est quelque chose qui est assez pratique pour ça. Même juste savoir remettre un pantalon à sa taille ou faire les ourlets, c'est assez pratique. Et ça peut être aussi une vocation, comme l'atelier que j'avais fait avec les femmes en réinsertion professionnelle. Il y en a certaines qui finalement avaient fait un CAP couture il y a plusieurs années et qui se sont remis dedans et qui finalement se sont dit pourquoi pas retourner dans ce milieu-là et en faire à nouveau mon métier.
Voilà, donc pour vous contacter, c'est facile ?
Oui, donc mon site internet c'est marieclaude-couture.com et sinon sur tous les réseaux sociaux c'est marieclaudebox, marieclaude B-O-X, donc sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et mon adresse mail c'est contact.marieclaudecouture@gmail.com.
La cité de la dentelle et de la mode à Calais témoigne d'une industrie glorieuse qui ne demande qu'à revivre. Elle nous est présentée par Shazia Boucher.
Bonjour, je m'appelle Shazia Boucher et je suis directrice adjointe des musées de Calais.
Donc ici nous sommes, comment on appelle, la cité de la dentelle et de la mode ?
Tout à fait, parfait, la cité de la dentelle et de la mode.
Donc un musée qui existe depuis longtemps, avec deux sections définies, une nouvelle peut-être ?
Alors, la cité dentelle et la mode s'est ouverte en 2009, dans une ancienne usine de dentelle de fin du 19e siècle, mais avec une construction moderne, contemporaine, tout en verre, et qui accueille l'exposition temporaire et l'auditorium du musée.
Donc en région de France, il y a deux, on va dire, régions spécifiques pour la dentelle. Il y a Caudry, d'une manière globale, hein, et puis aussi, bien sûr, ici, Calais, avec toute une économie qui était importante à un certain moment.
Tout à fait. En fait, Calais n'était pas une ville de production textile à la base. C'était une ville qui était tournée vers la mer, hein, vers l'export. Mais la proximité avec l'Angleterre a fait en sorte qu'au 19e siècle, des premiers métiers sont arrivés, puisque, bien sûr, l'Angleterre était un peu en avance du continent par rapport à la technologie avec la révolution industrielle. Et donc, on a fait venir les métiers de dentelle. Et puis après, c'est installé au plus près, finalement, des côtes anglaises. Et Calais est devenue une vraie petite Angleterre avec 20 000 personnes qui travaillent la dentelle au début du siècle.
Donc quand on parle de la dentelière, ça évoque une image. Est-ce que cette image pour vous, elle se transmet au travers du temps ?
Alors, c'est vrai que le dentelier, on a l'impression de quelqu'un qui est en train de travailler avec ses mains le fil, hein, pour réaliser ce textile très, très ajuré. Bien sûr, cette dentelle-là, nous avons en fait dans nos collections, mais ce qu'on présente surtout, c'est les technologies mécaniques de ces métiers qui ont réussi à imiter les mains de la dentelière pour fabriquer ce tissu extrêmement délicat qu'est la dentelle.
Est-ce qu'il y a un rapport, on veut dire, avec les métiers à tisser ?
Le métier qui fabrique la dentelle dite de Calais-Caudry est bien un métier à tisser, c'est-à-dire il y a un entrecroisement de fils, et donc ce type de métier-là est le plus qualitatif pour fabriquer la dentelle, puisque la dentelle est beaucoup plus solide, ça ne peut pas se défaire comme la dentelle dite tricotée, où il y a un seul fil. Et donc si on tire en fait sur le fil, en fait la dentelle peut se défaire. Donc c'est effectivement le haut de gamme, hein, de la dentelle.
Et donc les métiers à tisser, il y a des commandes par des cartes perforées ?
Ces métiers-là sont effectivement en fait contrôlés par les cartons Jacquard, hein, dont une invention de Jean-Marie Jacquard. Donc c'est un système binaire, 0, ça ne travaille pas, 1, ça travaille. Et donc vous voyez, ça va faire en sorte de bouger certains éléments dans la machine, dans le métier, pour produire le mouvement du fil.
Donc actuellement, l'économie, l'industrie liée à la dentelle, existe-t-il encore en France ?
Il y a encore de la production de la dentelle haut de gamme, hein, à Calais. Il y a 2 entreprises qui fabrique encore la dentelle. Et à Caudry, il y a plusieurs entreprises dont c'est vraiment une industrie orientée vers le haut de gamme, c'est-à-dire c'est pour la robe, c'est pour la haute couture, le prêt-à-porter de luxe ou bien sûr aussi la lingerie de luxe. Maintenant, c'est vrai que c'est une industrie qui a du mal La mode est toujours cyclique. Il y a des moments où on porte plus ou moins la dentelle. Et puis, on a eu quand même plusieurs années avec des crises économiques importantes. Et donc, ça a touché tous les secteurs. Et la dentelle n'était pas, en fait, protégée plus que les autres industries.
Quels sont les couturiers qui ont beaucoup utilisé la dentelle ? Peut-être qu'ils l'utilisent moins maintenant. Est-ce qu'il y a eu des gens célèbres qui ont popularisé cet art ?
Alors, plus près de nous, je dirais oui, on peut penser à quelqu'un comme Christian Lacroix, hein, donc qui, effectivement, est vraiment maître dans le mélange, en fait, de textures et de tissus, et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup apprécié l'utilisation de la dentelle. Sinon, aussi, un styliste, Chantal Thomas, hein, donc qui a commencé dans le prêt-à-porter et qui était le premier à vouloir mettre de la dentelle sur les jambes des femmes, hein, donc, et qui a vraiment la particularité d'avoir travaillé avec les dentelliers pour la création des dentelles spécifiques pour ses propres créations.
Vous avez, à un moment donné, réalisé une exposition destinée à être présentée à Shanghai, à l'Expo Universelle.
Alors, ce n'était pas l'Expo Universelle, c'était dans un musée qui s'appelle le MoCA, à Shanghai. C'est une exposition qui voulait mettre en avant les savoir-faire des industriels de la dentelle. Donc c'est une exposition qui était vraiment destinée à voyager pour faire connaître en fait ce savoir-faire en dehors de la France, hein. Et donc le premier passage a eu lieu en Chine et le deuxième à New York.
Et est-ce que ça aboutit à des partenariats, des développements ?
Alors, ce n'était pas vraiment dans le but pour que le musée, en fait, crée des partenariats. C'était vraiment dans le but de faire connaître le savoir-faire de nos industriels, en fait, de la dentelle. Donc, on espère qu'effectivement, bah, ça leur a peut-être apporté quelques clients.
Voilà. Donc, comme vous le disiez, la mode, c'est cyclique. Vous attendez la vague qui revienne.
Bah, nous espérons toujours, hein. Et puis c'est vrai que quand le public vient, qu'il découvre ce savoir-faire et ce textile extrêmement unique, je pense que tout le monde est conquis. Il faut juste passer la porte et le découvrir.
Voilà, donc vous, votre travail, c'est de préserver, de montrer, de donner envie, de l'appétit aussi.
Voilà, et de faire connaître, et puis faire connaître aussi auprès du grand public, mais aussi les jeunes créateurs, les designers de demain, pour donner envie à connaître ce tissu et donc de l'utiliser.
Alors dans la région, il y a aussi Roubaix-Tourcoing, qui est quand même une base au niveau du tissage, etc., qui était importante. Il y a encore peut-être une école ou des musées. Est-ce que vous imaginez des collaborations ?
Nous avons travaillé par le passé, effectivement, avec la piscine de Roubaix, hein, par exemple, sur des projets d'exposition communes, ça fait plusieurs années. Nous connaissons bien, en fait, hein, bien sûr, hein, ce sont des collègues, en fait, hein, qui travaillent dans ce même domaine. Il y a S-Mode, qui se trouve aussi sur Roubaix, avec qui nous avons travaillé par le passé. Bah, le tout, c'est de se rassembler autour des projets communs et de les porter ensemble. Bien sûr, il y aura des projets, certainement, à l'avenir.
Spot qui avait une école ou qui a peut-être encore une école en Chine d'ailleurs.
Oui, alors ça je ne peux pas vous dire, mais effectivement ils ont plusieurs écoles, hein, dans le monde. Donc, ouais,
donc l'histoire n'est pas terminée.
Non. Restons optimistes.
Alors c'est vrai qu'on est dans une période un peu d'incertitude globale, hein, économique, pour le monde de la culture, pour le monde aussi, j'imagine, de la mode, du luxe, de la couture. Les gens font plus attention qu'avant, hein.
Voilà, en fait, c'est tout ça. Je crois que les chefs d'entreprise, ils ont aussi un petit peu de difficulté à savoir comment se positionner. Donc, c'est vrai que tout le monde est un peu dans une expectative.
Voilà, mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Puis merci de conserver, de présenter dans un cadre merveilleux cet ensemble qui est unique en France.
Bah, merci à vous, puis je vous dis à très bientôt.
À Roubaix, l'usine Tissel est réinvestie par de jeunes entreprises qui se lancent dans le recycling et l'upcycling. Nous y retrouvons Ophélie Poyon, créatrice d'un jeu inspiré du lieu, le Trésor des Manufactures, un escape game sur l'économie circulaire. Elle nous présente la mémoire de l'usine et les projets qui s'y préparent.
Bonjour, je m'appelle Ophélie Poilion et j'ai co-créé un escape game à Tissel, qui est un tiers-lieu sur l'économie circulaire à Roubaix.
On peut rappeler un peu l'histoire de cette grande entreprise qui a été Tissel ?
Oui, alors en fait, Tissel, c'est une ancienne usine textile qui, à l'époque, s'appelait Terninck Frères. C'est une des premières à avoir ouvert puisqu'elle s'est lancée en 1835 et c'est également une des dernières à avoir fermé dans les années 2000. À l'époque, eh bien, on tissait, on tricotait. C'était une usine qui était d'ailleurs assez innovante parce que c'était parmi les premières à produire des pantalons pour femmes, ce qui était vraiment en rupture avec ce qui se faisait à l'époque. Donc c'est un bâtiment qui est vraiment chargé d'histoire et assez symbolique de l'industrie textile roubaisienne.
Alors, quand on visite un peu le lieu, on voit des carnets avec des échantillons et classés par année, parfois par saison.
Exactement. Vous êtes passé là en salle des archives où en fait on a tous les documents d'archives de l'époque avec par exemple tous les petits livrets qui répertorient les différents tissus qu'on fabriquait ici à Terninck Frères. Et donc on voit par exemple qu'il y a la collection été 1926, hiver 1938, etc. avec des échantillons des textiles qu'on produisait et qu'on tissait ici dans l'usine.
Est-ce que des historiens se sont penchés sur le lieu ? Peut-être pour aussi définir les modes des échantillons, hein. Ça suivait sans doute la mode aussi, hein.
Alors mais là où on a de la chance, c'est que tous les documents d'époque, notamment ceux qu'on trouve en salle des archives, sont restés sur place. Et donc on a même pu les intégrer dans les visites, dans notamment l'escape game par exemple qu'on anime ici.
Donc le lieu maintenant, il est redevenu un espace de travail pour plusieurs entreprises. Comment s'est faite cette mutation ?
Exactement. Alors en fait, l'usine elle a fermé en 2000. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant plusieurs années. Et ensuite, c'est la mairie de Roubaix qui a repris le bâtiment et qui a délégué la gestion du lieu à une association qui s'appelle les Manufactures Tissel et qui a décidé d'en faire un tiers-lieu sur l'économie circulaire. Tout en rénovant le bâtiment, parce que c'est une très vieille usine, donc on l'habite alors qu'on est encore en train de la rénover, et ça c'est vraiment un choix. C'est plutôt que de construire du neuf ou d'attendre que ce soit refait complètement à neuf avant d'emménager, eh bien on emménage dans le bâtiment tel quel et on le construit au fur et à mesure qu'on développe nos entreprises. Aujourd'hui donc il y a 8 structures qui sont hébergées à Tissel, qui ont toutes pour point commun de travailler dans l'économie circulaire et d'être des manufactures. Par exemple, on a Lavier Belt qui produit des accessoires de mode upcyclé à partir de déchets, donc par exemple des ceintures à partir de pneus de vélo. Il y a aussi Recycle-moi, qui est la plus grande recyclerie de vélos en France, donc qui répare des vélos et qui les revend. Il y a également Join fait le lin, qui produit des vêtements en lin tricoté. Et donc toutes ces structures-là ont pour ambition déjà de relocaliser des manufactures en cœur de ville, de reproduire à nouveau, de participer au redéveloppement textile roubaisien, mais aussi de produire avec vraiment cette idée de on va respecter la matière, respecter l'environnement, limiter au maximum notre utilisation de ressources et notre production de déchets. Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'économie circulaire en fait. C'est une économie qui est beaucoup plus respectueuse de la planète, mais aussi des humains. On forme également beaucoup de personnes à ces métiers de manufacture ici à Tissel, et ça fait aussi partie de nos valeurs.
Et puis il y a aussi donc ces matériaux de base, hein, on en a évoqué quelques-uns, qu'on essaie de trouver localement.
Exactement. Le meilleur exemple, je pense, c'est Join fait le lin, qui est une entreprise qui a été fondée par Augustin. Augustin, il fabrique des t-shirts, des shorts en maille de lin tricoté. Et le lin, il provient de Normandie, de Belgique. Il est tricoté ici, dans l'usine de Tissel. Et ensuite, il est assemblé juste à côté, dans un autre lieu à Roubaix.
À Roubaix, il y a peut-être une école de mode. Est-ce qu'éventuellement, il y a des connexions possibles ?
Oui, il me semble que c'est avec eux, à vérifier avec Augustin, mais c'est eux d'ailleurs qui assemblent les vêtements de Join fait le lin. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, sur cet aspect formation, on a pour projet à Tissel de créer une école de la réparation. Donc ça, c'est un projet qui est piloté notamment par Antifashion, une des associations qui réside ici, en collaboration avec d'autres marques engagées, comme par exemple Veja. Et donc l'idée, c'est de former des personnes à la réparation, notamment de cordonnerie, ce qui est dans l'esprit de l'économie circulaire également, parce que quand on répare nos vêtements, nos chaussures, ils durent plus longtemps. Et donc, on est dans l'inverse de la fast fashion, où on achète toujours plus et on doit donc produire toujours plus, utiliser plus de ressources. Réparer, c'est une des clés de l'économie circulaire.
Il y a de nombreux lieux industriels, historiques, hein, qui ont été abandonnés, puis restaurés, réintégrés à une vie pas forcément industrielle, ça peut être culturel, je pense à la condition publique. Hein. Voilà, donc ça fait partie d'un ensemble.
Exactement, c'est ça. L'idée, en fait, c'est plutôt que de construire du neuf, c'est d'utiliser, enfin, de revaloriser ce patrimoine historique, industriel qu'on a à Roubaix. Déjà parce que c'est un cachet incroyable. Enfin, l'usine est belle. On retrouve vraiment, enfin, toute l'histoire du textile roubaisien à l'intérieur. Mais aussi, enfin, pour nous, ça a aussi énormément de sens parce que le fait de réparer, de rénover de l'ancien, c'est aussi de l'économie circulaire. Parce qu'on produit moins de déchets, on ne va pas détruire un bâtiment. On utilise moins de ressources parce qu'on ne va pas chercher des nouveaux matériaux pour construire neuf. Et donc, c'est beaucoup plus sobre et c'est beaucoup plus aligné avec une manière d'habiter la ville qui est respectueuse de la planète.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans la région, et pas que dans la région, sur le fait de ne pas tout jeter, pas tout brûler en termes de déchets, mais recycler, upcycler aussi. On peut peut-être faire la nuance entre les deux.
Exactement. En fait, quand on fait de l'économie circulaire, on peut faire des boucles plus ou moins longues. La plus longue, c'est recycler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend vraiment un déchet qu'on va devoir venir collecter, traiter, broyer, mettre potentiellement des produits chimiques pour refaire une matière première à part entière. Par exemple, c'est ce que fait Dagoma. Dagoma, c'est une entreprise ici à Tissel qui fait de l'impression 3D. Ils utilisent des bioplastiques, donc par exemple du plastique à base de moules qui ont été broyés, recyclés pour faire du filament de bioplastique pour imprimer 3D. Ça, c'est le recyclage, c'est la plus longue boucle. Mais l'idéal, c'est de faire des boucles les plus courtes possibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus la boucle est courte et moins on va devoir travailler la matière, moins il y aura de gaspillage, plus ça va être frugal en énergie, etc. Donc par exemple, l'upcycling, c'est ce que fait la Vie et Belt, où ils vont réutiliser un déchet, mais ils ne vont pas complètement le traiter, le broyer, etc., pour en faire un nouvel objet. Par exemple, ils utilisent des pneus de vélo pour faire des ceintures. Une boucle encore plus courte, c'est la réparation. Donc par exemple, Recycle-moi récupère des vélos, il les répare, donc ça reste le même objet, et ils les revendent. Donc ça aussi, c'est ultra valorisant. Et il y a des boucles même encore plus courtes, comme le partage. Par exemple, à Tissel, on partage beaucoup d'espaces communs. On partage des choses toutes bêtes, comme la machine à café, ou on partage aussi, par exemple, une petite camionnette entre les différentes usines. Ça permet, en fait, vraiment d'optimiser l'utilisation de chacun de nos objets et de nos espaces. Et donc, plutôt que d'en acheter plein, on en a un qu'on mutualise, qu'on partage. Et donc, c'est plus sobre en ressources. Et en plus, ça crée des liens.
Il semblerait qu'on soit arrivé à un moment de réflexion où consommer responsable s'impose.
Oui, ça fait un moment. En fait, aujourd'hui, consommer responsable, c'est d'abord la sobriété. C'est refuser de consommer quand on n'en a pas réellement besoin. Et ensuite, quand on a besoin de consommer, effectivement, on consomme de manière intelligente. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mutualiser et partager ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter avec des matières premières qui sont plus nobles, en circuit court et de proximité ? Toutes ces questions-là sont vraiment primordiales aujourd'hui si on veut relever le défi environnemental de demain.
Voilà, donc vous, en tant que personne intégrée au lieu, vous avez une activité qui s'y déroule. On peut peut-être la présenter votre entreprise.
Bien sûr. Alors en fait, donc à Tissel, il y a ces 8 entreprises qui résident ici. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on reçoit des entreprises externes qui viennent en séminaire. Donc on a une énorme salle de séminaire qu'on loue. Et on fait également des voyages apprenants, ce qui permet en fait aux entreprises qui viennent en séminaire de s'inspirer de ce qui se passe à Tissel et de se former à l'économie circulaire. Du coup, on fait par exemple des visites de l'usine. Moi, à titre personnel, ce que j'ai créé ici à Tissel, c'est cet escape game, donc un jeu d'enquête, qui se déroule dans les 11 000 m² de l'usine, où on découvre en fait qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire et comment est-ce qu'elle est pratiquée ici à Tissel. Donc, il y a au total 10 étapes de l'enquête et à chaque étape, on va découvrir une des structures de Tissel et un des aspects de l'économie circulaire. Par exemple, on va découvrir le réemploi avec la Vie et Belt, la réparation avec Recycle-moi, le circuit court et de proximité avec Joint Fait Le Lin, le zéro déchet avec les 3 tricoteurs, etc.
Donc ça suppose que vous ayez suffisamment de personnes pour se répartir en groupe, pour que ce soit dynamique.
Exactement. En fait, alors l'escape game, on peut l'animer à partir de 4 joueurs. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'ambiance, mais on peut même monter jusqu'à 80 joueurs à la fois. Parce qu'il est tellement grand et il y a tellement d'étapes qu'on peut avoir jusqu'à 10 équipes qui jouent en simultané. Le but étant d'être la première équipe à trouver le trésor des manufactures que les anciennes ouvrières de l'usine ont dissimulé quelque part dans les lieux et qu'il faudra retrouver grâce aux indices qui sont éparpillés à travers l'usine.
Voilà, donc un jeu qui donne une idée aussi d'une sorte d'histoire du passé de cette entreprise et de son avenir, donc positive, optimiste.
Eh ben, je ne vous divulgage pas parce que vous aurez la réponse si vous trouvez le trésor. Mais oui, effectivement, l'enquête en fait, se focalise à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui à Tissel, donc comment est-ce qu'on produit, mais il y a aussi un aspect historique de l'enquête où vous découvrez l'histoire du textile roubaisien, l'histoire spécifique de l'usine Tissel. Et on se rend compte finalement au fil de l'enquête qu'entre ce qui se passait à Tissel hier et ce qui se passe aujourd'hui, on retrouve certaines valeurs qui n'ont pas changé. Le fait de produire en cœur de ville, la solidarité entre les ouvriers, le fait de valoriser le savoir-faire, le savoir fabriquer, le fait de produire localement, en circuit court, avec des partenaires ultra locaux, tout ça, ça n'a pas changé et c'est des valeurs qu'on veut garder en développement Tissel demain, aujourd'hui au 17 rue du Nouveau Monde et demain, pourquoi pas, dans d'autres lieux liés à d'autres industries qui peuvent intégrer l'économie circulaire dans leur mode de production, que ce soit le bâtiment, le textile, etc.
Donc Tissel, T-I-2-S-E-L, il y a un site web ?
Oui, tissel.org.
Voilà, donc pour tous les amateurs d'expérience, c'est l'occasion.
Exactement, on sera très heureux de vous recevoir à Tissel pour vos team building, séminaires. Pour l'instant, on n'accueille pas encore du public parce que le bâtiment en entier n'est pas ERP. En revanche, on peut accueillir des travailleurs. Donc, vous pouvez venir avec votre entreprise, votre structure en séminaire et on animera des visites, des escape games et plein d'autres activités avec grand plaisir.
De Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a fait un? J'en demandais encore un. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Faut croire que c'est la société qui me l'a définitivement abîmé. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Maintenant,
chaque fois qu'on essaie de se ranger. De s'installer tranquille dans un meublé. Allez, trois jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Ces quatre, nous tournerons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour petit que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi venir, je tremble pour Clyde Barrow. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Et plus d'un les a suivis en enfer. Quand son mort, Barrow, est venu par cœur.
Vous écoutez Radio Campus, 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Je vous propose à Roubaix de découvrir la grande école S-Mode qui forme au métier de la mode. Nous y rencontrons son directeur Philippe Miroux et plusieurs des élèves stylistes qui nous présentent leur collection de vêtements créée avec enthousiasme et ténacité dans l'école et dévoilé à l'ESMODE lors de la journée talent du 12 juin 2025.
Ben bonjour, voilà, je suis Philippe Smiroux, donc je dirige l'école d'ESMODE dans le nord de la France et particulièrement à Roubaix. Voilà, Roubaix pourquoi ? Parce que avec son côté patrimonial, entreprise, textile, qui sont encore bien implantés, voilà. ESMOD, c'est une belle histoire. On est une école, bien sûr, où on forme les futurs stylistes, modélistes, mais pas que. On forme aussi les futurs marketeurs, communicants. Là, c'est la partie business. Parce que nos métiers ne s'arrêtent pas. Comme tous les métiers, d'ailleurs. Il n'y a pas que des designers ou que des créatifs, mais parce que derrière, il y a toute la partie aussi, business. Et on les forme à ça aussi.
Et donc, cette école, elle est, dans l'histoire, assez unique.
Elle est plus qu'unique, en fait. Elle a été unique il y a 184 ans déjà. Voilà ce qu'on fête, nos 184 ans d'existence. Les écoles de mode, ça n'existait pas en France, nulle part dans le monde. Et l'école a vu le jour sous le Second Empire par un génial monsieur, un génial inventeur, un génial couturier, Alexis Lavigne, qui est le fondateur de l'école. Je pourrais vous en parler des heures, mais Alexis Lavigne était déjà à la base le maître tailleur de l'impératrice Eugénie, l'épouse de l'empereur Napoléon III. C'est lui qui l'habillait. Mais au-delà de l'habiller, on lui doit encore aujourd'hui beaucoup de choses, et sur la planète, on lui doit beaucoup de choses encore. C'est lui qui a breveté, inventé le centimètre souple, le mètre ruban, qu'on a toutes et tous, soit dans notre boîte à couture, soit pour les bricoleurs, dans leur boîte à outils. C'est lui qui l'a breveté. Je reviens à l'impératrice Eugénie et lui étant son maître tailleur. Comme l'impératrice était tout le temps en mouvement, par ses déplacements, de par sa fonction, il devait à chaque fois attendre qu'elle revienne pour à nouveau reprendre les retouches de ses vêtements, de ses robes, etc. Et le coup de génie qu'il a eu, il a dit, bah tiens, je vais essayer de mouler son corps. Il a trouvé la technique. Donc, le premier buste en dur, ça lui a permis donc l'impératrice pouvait voyager, et lui continuait à travailler sur ses créations. Et encore aujourd'hui, dans le monde entier, c'est grâce à lui que les bustes, alors, qu'on trouve dans n'importe quel atelier, que ce soit dans le prêt-à-porter ou dans le luxe, on trouve des bustes, et ben on les doit à Alexis Lavigne, voilà. Le centimètre souple, ça je l'ai dit, voilà. Et aussi sa grande vision. Et pourquoi l'école? J'y arrive. Sa grande vision. Il s'est posé un jour la question. Tout le monde, depuis la nuit des temps, on ne fait que des vêtements uniques. Personne ne savait faire autre chose que cela. Mais sur les quatre coins de la planète. Lui a trouvé la technique. Comment faire en sorte qu'un vêtement fait, je peux trouver le moyen de démultiplier ce vêtement dans des tailles différentes. Il a trouvé la technique. Et ça a marché. Mais pour être garanti, et c'est là que c'est un grand visionnaire, pour être garanti, et il savait que ça allait être l'avenir du vêtement, donc je vous parle toujours du Second Empire, hein. Il dit, le seul moyen pour que ça se propage sur la planète, c'est de créer une école. À Paris, après Monsieur Lavigne, bien sûr, est décédé, il a sa descendance avait repris, voilà, qui était toujours aussi dans sa fille, déjà travaillé dans des maisons de couture, etc., etc. Et dans les années 70, la lignée de Monsieur Lavigne s'est un peu éteinte, mais à l'intérieur des SMOD, voilà, il y avait des personnes donc qui connaissaient, qui avaient la descendance de Lavigne pour les avoir rencontrés. Et travailler aussi et collaborer avec, eh bien, elles ont repris la tête d'Esmod. Monsieur Nino Satoru, qui aussi était le premier franchisé, le premier à avoir développé une école Esmod en dehors de la France, donc dans les années fin 60, début 70, donc avait ouvert Esmod à Tokyo et Osaka. Ça s'est développé. D'autres ont souhaité ouvrir les campus Esmod partout sur la planète. Voilà, aujourd'hui, Esmod, on compte 18 campus, 6 en France, Lyon, Rennes, Bordeaux, Roubaix, Paris, bien évidemment, et Pantin. Et à l'international, donc je vous parlais de Tokyo, Séoul, Kuala Lumpur, Oslo, etc., etc. En fait, l'école s'implante là où il y a vraiment soit de la mode, ou soit de l'industrie textile surtout. Parce que l'objectif, in fine, c'est que nos étudiants travaillent.
On va prendre un exemple particulier dans le monde, c'est Guangzhou, Canton. Oui. Donc là, de l'industrie, il y en a, bien sûr.
Hein. On a une école à Guangzhou aussi. Voilà. Donc, on est implanté aussi en Chine. Voilà. On n'irait pas s'installer, bien sûr, avec tout le respect de certains pays ou de certaines villes, dans certains pays, là où il n'y a aucun intérêt de s'y implanter, parce qu'il n'y a pas d'industrie textile. Ça serait leurré. Les jeunes et futurs diplômés, voilà, non. L'école est internationale, d'autant plus que, et ça c'est la grande chance qu'ont nos étudiants, c'est qu'ils peuvent décider de faire leur première année à Roubaix, décider de faire leur deuxième année à Tokyo, et revenir à Roubaix, ou aller à Paris, pardon, faire leur troisième année. Pourquoi ? Parce que les programmes sont identiques partout. Et ça c'est parce que ça a toujours été le souhait depuis 184 ans, la France nous honore de cela d'ailleurs, parce qu'on diffuse un savoir-faire français. Voilà. C'est Esmod, sa méthodologie, remise à jour tous les ans, bien évidemment, parce que la mode évolue et les industries évoluent. Et c'est pour cela que tous nos diplômes sont reconnus. RNCP, ça comme beaucoup. Mais le Graal du Graal, et c'est quasi impossible ou très rare pour une école dite privée, d'avoir d'autres reconnaissances par le ministère de la Culture. Alors moi, perso, j'en suis d'autant plus fier parce que enfin, on considère que la mode fait partie de la culture, ce qui n'était pas évident pour certains ou certaines. La mode, non, c'est pas de la culture. Ah bon ? Ah bon ? Et ben moi, quand je vois des expos dans les musées, Schiaparelli, Poiret, etc., ça rentre dans des musées, donc c'est de la culture. Et je reviens à notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui reconnaît, avec un véritable diplôme, autre que RNCP, parce que ça s'est aussi reconnu, nous reconnaît au même titre qu'un des universités. Pourquoi ? Un, par l'ancienneté de l'école, nos programmes pédagogiques, nos taux de placement qui sont quasi à 90-96%, et surtout qu'ils ont validé définitivement par décret, c'est que Esmod est un patrimoine français, et ce patrimoine est préservé et il le diffuse dans le monde entier.
Est-ce que selon les endroits d'implantation, il peut y avoir des déclinaisons de la mode par rapport à des ambiances locales, à des couturiers locaux? Je pense au Japon, il y a des gens extraordinaires aussi au Japon.
Alors, très 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 bonne question. Quand je vous disais tout à l'heure que nos programmes sont identiques partout, mais bien évidemment, nos écoles dans le monde doivent garder un objectif, mais cet objectif peut être atteint en fonction, bien sûr, de la culture locale, évidemment, du marché local, bien évidemment. Vous citiez le Japon comme exemple. Le Japon, c'est une culture déjà différente de l'Europe, qu'on ne peut en aucune manière comparer. Moi, je dis toujours à ceux ou celles qui rêveraient d'aller au Japon, je leur souhaite d'y aller, bien évidemment, parce que moi, j'adore quand je me déplace au Japon. La première fois, j'ai pris une claque, mais une bonne claque, hein, positive. J'ai adoré. Mais on m'avait prévenu, Philippe, n'essaie surtout pas de transposer des choses dans ton esprit occidental. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Mais ils avaient bien raison. C'est ce que j'ai aimé, en fait. Donc, bien évidemment, au Japon, comme à Séoul, d'ailleurs, en Corée, c'est leur créativité, leur technicité qui va être, bien sûr, adaptée, parce que c'est l'ADN du Japon. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, des créateurs japonais célèbres dans le monde, en France, comme des garçons, Yuji Yamamoto, Kenzo, leurs vêtements et leurs collections sont diffusées partout dans le monde, et avec un franc succès, parce que on aime leur style. Tout comme eux, à l'inverse, aiment le style aussi français. Voilà. Donc, Esmon adapte bien évidemment sur les campus dans les pays, bien sûr à l'industrie, à une culture, parce qu'ils connaissent parfaitement leur cible. Et d'ailleurs, on a énormément de chance cette année, parce que tous les ans, je souhaite que les promotions soient parrainées. Là, aujourd'hui, il va y avoir plus de 150 professionnels de la mode qui viennent de Bruxelles, de Paris, bien sûr de la région, juger, apprécier et noter les collections. Mais moi, je souhaite chaque année que les promotions soient parrainées par quelqu'un de pointu. Voilà, les années précédentes, j'ai eu Chantal Thomas, Jean Coutu 3, la maison Fendi, etc. Bon, bref. Et là, cette année, beaucoup, beaucoup de chance. On parlait du Japon. Donc, cette année, la promotion, il est présent là, est parrainé par, comme des garçons, célébrissime maison japonaise que tout le monde connaît, du plus jeune au plus ancien. Voilà. Et quand j'ai annoncé à nos étudiants, futurs diplômés et professionnels, eh bien voilà, la présidence et le parrainage va être par comme des garçons. Ils ont tous, pour certains, hurlé de joie, pour d'autres, ont fendu en larmes de joie aussi. Hein. Ils y croyaient pas. Voilà. Et en plus, le représentant de la maison comme des garçons qui est là, Pierre-Henri Stock, est un diplômé d'ici le Roubaix. Voilà, l'an passé aussi. Parce que ça aussi, je veux mettre à l'honneur nos réussites locales. C'est important.
Donc, Roubaix a été une grande capitale textile. Je pense qu'à ce moment-là, évidemment, trouver en adéquation avec la production des idées nouvelles pour la mode, ça pouvait être important, nécessaire. Après, on connaît la suite de l'histoire. Est-ce que le fait que la Chine se soit développée en termes d'industrie textile amène aussi ce pays à vous rechercher pour accompagner ce développement technologique industriel par ce qu'on appelle la création de mode?
Excellente à nouveau question. Alors, Roubaix, je commence par Roubaix. En effet, vous avez raison. Roubaix, depuis le 15e siècle, hein, suite à un décret que le roi avait signé, Roubaix était la seule ville qui avait le droit d'user de toute laine. Ça voulait dire quoi? De faire l'industrie de la laine. Bon, ça a duré pendant des siècles. Roubaix, n'oublions pas, était le fleuron français, la ville la plus riche de France. Voilà, en termes d'industrie, de population, bref. Mais on pense toujours que la mode et que Roubaix, du coup, ont décliné à cause et uniquement dans l'industrie de la mode. C'est faux. En fait, nos industries ont commencé à décliner dans les années 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises sont rentrées dans l'ère du marketing et du business, vraiment, à fond. C'est-à-dire business de masse. Faut produire. La France n'a pas pu suivre. Mais surtout, pour revenir aussi à Roubaix, et vous parliez de la Chine, eh bien, ils ont piqué l'outil des machines. Exemple, vous allez à la manufacture ici, le musée de la manufacture, il y a encore les métiers à tisser de l'époque, etc., etc. Ben, les Chinois ont piqué l'idée et ont développé en masse. Faire concurrence dans les années 80 à ça, c'était un peu compliqué. Mais, et ça, je suis en phase à 1000%, parce que moi, je suis pas un nordiste. Je suis du Nord, moi, j'étais à Paris. Et quand je suis arrivé à 30 ans, pour ouvrir l'école, et à 30 ans, donc c'était vraiment le déclin de toutes ces industries, un monsieur que je remercie encore aujourd'hui à votre micro, Jean Dufauret, la ville de Roubaix, le maire, paix à son âme, André Diligent, on dit, OK. On va pas se morfondre, on va pas un peu rester notre sort. Et Jean Dufauret a dit, ils nous ont piqué nos machines, ils nous piqueront pas notre cerveau. Donc dans notre cerveau, c'est la créativité. Préservons-la. Et pour être sûr de la préserver, faut qu'à terme, court, moyen, long terme, faut former des jeunes à cela. Il n'y a qu'une école qui doit s'implanter à Roubaix, c'est Esmode. Voilà, je vous résume comment Esmode a ouvert à Roubaix. Moi, de Paris, j'ai atterri ici. Je suis tombé directement en amour et de cette ville et de la région. Et quand je vous ai dit Jean Dufauret, André Diligent, j'ai tout de suite ressenti et apprécié, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de misérabilisme ici. À Paris ou dans d'autres régions ou dans d'autres pays du monde, on va se morfondre, on va pleurer sur notre sort. Mais quelle solution? Il y a toujours des solutions. Et ça, au quotidien, et encore 30 ans plus tard, c'est toujours le même cas. Bon, ça, c'est fini, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut refaire? Je vais vous faire une suggestion aujourd'hui.
Dites-moi.
Je suis allé visiter la cité de la dentelle et de la mode, qui est à Calais. Et là, j'ai vu, alors j'ai posé des questions à la responsable et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a encore un lycée professionnel qui forme aux techniques? Elle m'a dit non, il n'y en a plus, il n'y avait pas assez de monde pour former, donc on nous a fermé cette section. Et nous, en termes de musée, je parle de la cité, on a récupéré la mission, mais on n'a plus que deux apprentis. D'où ma question... qui est en phase justement avec, pour moi, ce drame que j'ai ressenti chez cette personne qui porte cette aventure et puis cette culture et puis ces machines qui sont là, on pourra les définir, mais est-ce que vos créateurs ne pourraient pas, puisque ceux qui sont dans la région pourraient s'imprégner aussi de Caudry, de Calais, pour mettre une petite pièce de dentelle dans leur collection?
Alors je vous réponds tout de suite. Bien évidemment, nos étudiants, et je vous invite à faire le tour de chaque étudiante et étudiant futur diplômé, de fin de bachelor, licence, mais c'est un impératif. On leur impose pas. Si de la dentelle n'a pas lieu, et raison d'être, ou comme du cuir, ou comme du denim, c'est pas dans l'ADN de leur collection, leur concept de collection, on va pas leur imposer. Mais tous les ans, on est en partenariat avec BRAC, avec Potencier, donc des denteliers, etc. encore, etc., solstice. Voilà. Donc, notre devoir, et c'est ça aussi qui a fait que, je vous parlais tout à l'heure de notre reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur, ça fait aussi partie de cela, cette reconnaissance. On préserve les savoir-faire. Ça, c'est notre ADN premier. Et on l'adapte au 21e siècle. C'est pas reprendre de la dentelle pour faire ce qu'on faisait avec la dentelle il y a sous le Second Empire. Aucun intérêt. C'est ça notre force. Et vous me disiez, il n'y a plus d'école de formation sur les dentelles. Oui, à Paris, il y en a. Il y a le SAGE, etc., etc. Voilà. Il y a encore des centres de formation. Et le SAGE, par exemple, c'est le plus, comment dirais-je, brodeur. C'est pas un atelier, remarquez, c'est un brodeur. Voilà. Mais tous ces savoir-faire, on doit les préserver. Vous me disiez qu'il y a plus que deux personnes. Eh ben, c'est déjà bien. Vous savez, depuis Louis XIV, le monde nous envie cela. nos savoir-faire. Il y a, je crois, à vérifier, mais je ne suis pas loin, c'est 243 ou 246. 240, allez, on va dire 246 savoir-faire français qui vont de la plumacier jusqu'à, ça je l'avais découvert, je ne connaissais même pas, comment, sous Louis XIV, on récupérait les tiges de houblon pour en faire de la marqueterie. Eh bien, c'est préservé encore aujourd'hui. Il y a une seule personne en France qui est capable de le faire. Et elle voyage partout dans le monde, elle est réclamée par les maisons Hermès, Dior, etc. pour faire des pièces de merchandising exceptionnelles. Et donc, depuis Louis XIV, par décret, de roi en roi, c'était une obligation. Le nouveau roi devait signer ce décret par obligation. On est passé en République, des présidences. Chaque nouveau président élu en France doit signer ce décret pour préserver les 246 métiers savoir-faire. Eh bien, qu'il y en ait deux, même pour les denteliers que vous dites, en tout cas en formation, ben je préfère entendre cela que zéro. Deux, eh bien, je me dis, 2 puissance 2, ça fera 4, 4 puissance 4, ça fera 1, et voilà, etc. Ça. Et nous, à ESMOD, on leur inculque cela, matin, midi et soir. Et puis, je vais vous dire une autre chose. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Moi, je suis admiratif de ces jeunes. Parce que c'est eux qui font le monde de demain. Il faut leur laisser plus la parole. Moi, alors je suis un peu triste dans ce monde de voir toujours des anciens croire que c'est eux qui ont la parole divine. Je me bats, je me dispute hein, même des fois avec des personnes politiques, même si je n'en fais pas. Je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais déjà surtout, ayez un peu plus de politique pour cette jeunesse. Vous et vous, avec tout le respect que je vous dois, et par rapport à votre âge, parce que aussi on apprend des anciens, ok, mais pensez à ces jeunes, c'est pas vous qui faites le monde de demain, c'est eux qui le font, moi, être au contact d'eux quotidiennement, mais c'est un pur bonheur, c'est eux qui m'apprennent. Alors des fois je rigole avec eux, ils me font rire, comment je leur parle de ceci, de cela, RSE, voilà, mais Philippe, mais nous, c'est déjà intégré dans notre tête.
Alors justement, on vit une période de contraintes, de difficultés économiques. On pourra revenir sur comment s'en sort la mode dans ces difficultés-là. Mais en même temps, il y a de vrais challenges qui se mettent en place. Alors je vais donner deux exemples. Un, c'est de créer des gammes, des vêtements plus durables. Donc on verra après si mode et durabilité se peut. On va voir. Et puis la deuxième chose, c'est certaines marques, on va dire, hein, certains couturiers, qui remettent d'anciennes collections, qui remettent en vente des vieux vêtements en disant c'est encore nous, on continue de les vendre, même si ça a déjà servi. Donc on sent que l'économie nécessite d'évoluer vers peut-être plus de durabilité, le respect aussi des matériaux, de la nature, etc. Donc tout ça, je pense que ça peut être stimulant.
Ça l'est d'autant plus. Alors, à nouveau, pour la troisième fois, je vais vous dire, je pense que je vais vous confier mon poste de direction, parce que je pense que vous êtes très calé dans ces métiers. Nous, ça, c'est aussi dans nos formations à ESMOD, obligatoire. Après, vous posez la question, quand on voit aujourd'hui que ce soit dans le luxe ou le prêt-à-porter, ils subissent des crises. Je réponds toujours à cette question, à cela, en disant, mais c'est normal, ce sont des cycles de vie. Mais pas que dans la mode. Il y a des entreprises qui ont duré, qui à un moment donné n'ont pas su s'adapter, et qui ont arrêté. Mais ça, c'est normal, et d'autres naissent. Des nouvelles marques naissent. Voilà. Et sur la mode responsable, ce qui est quelque part agaçant, vous citiez Chine tout à l'heure, Chine, mais les marques en France, que ce soit dans la mode enfantine, Okaidi par exemple, je collabore avec eux depuis, parce que Jean Dufouré était le PDG d'Okaidi, mais j'ai ce souvenir il y a 15-20 ans, mais déjà ils avaient des normes, ils imposaient à leurs fournisseurs ces normes-là, etc., etc. Le luxe, on parle de luxe, c'est les premières aussi à avoir intégré cela. Je vous donne un seul exemple pour le luxe. Parce que bon nombre de nos étudiants diplômés d'ici travaillent dans le luxe, que ce soit chez Chanel, que ce soit chez Comme des Garçons, que ce soit chez Hermès, Vuitton, etc. Mais tous les ans, il m'appelle, voilà, Philippe, on a des stocks de tissus, d'accessoires, boutons, machin, nanana. On va te les envoyer pour tes étudiants. Mais c'est pas un petit carton que je reçois, c'est des sbires-morts qui arrivent devant l'école. Donc ça, c'était déjà de être responsable. Voilà. Donc, ça existe. Je pense que faut arrêter de prendre ces entreprises pour des idiots. Pas vous, hein, je vous rassure. Le consommateur, il le sait. Mais en dehors de l'Europe et de la France, allez vous attaquer plutôt à ces gens-là. Chine et compagnie. Peut-être. Ok. Autre exemple très récent. Vous savez que le Tour de France part de Lille cette année, de la région. Très bien. Il y a une équipe cycliste, Cofidis, qui existe depuis des décennies. Donc français. Donc tous les ans, ces cyclistes, concourent au Tour de France. Eh bien, on nous a contactés, nous, S-Mode, pour, comme ça vient, le départ est dans le Nord, ils voulaient boucler une boucle. Donc, ils voulaient une création issue d'Esmod, parce que Esmod est dans le Nord, pour créer un t-shirt emblématique équipe française Cofidis, et pas aller chercher à l'autre bout du monde des créatifs. Ils voulaient que ce soit complètement circulaire. Et moi, je leur ai dit, il y a aussi des... ils y connaissaient pas trop où on fait fabriquer, etc. Mais ils ont dit, nous, l'impératif, c'est que ce soit fabriqué aussi ici. Je n'ai pas de souci, il y a des entreprises ici qui fabriquent. Le Maillot, sublime entreprise, aussi emblématique du Nord. Voilà. Donc, je leur ai dit, c'est le Maillot. Pourquoi ? Implanté dans le Nord, entreprise emblématique, et ils font tout sur place. Du fil au tricotage, de la matière, à la teinture et à la fabrication. Tout est fait sur place. Il n'y a pas du tout d'export à droite, à gauche, au bout du monde. J'envoie mes fils à teindre en Chine ou je ne sais pas où. Non, tout est fait sur place. Donc ces entreprises, il faut les soutenir. Cofidis a dit bravo. Voilà. Et du coup, voilà, ça commence à être dévoilé dans la presse. Donc les t-shirts vont être distribués pendant tout le Tour de France aux supporters Cofidis de l'équipe. Et les deux jeunes créatrices et les gagnantes sont issues des Esmod Roubaix. Vous voyez, donc la boucle est bouclée. Donc tout a été fait, donc comme quoi c'est possible. De la création à la filature, au tissage, tissu, à la teinture, jusqu'à la fabrication, et même au print, parce que les t-shirts, il y a un graphisme qui est imprimé dessus, c'est le Maillot aussi. Donc c'est faisable.
Alors en région, on a aussi... des cultures, hein, c'est une grande région agricole, etc. Et on cultive le lin, une plante magnifique quand elle est bleue, etc. Et donc ce lin, il part beaucoup à l'export. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de noble ?
Bien sûr. Bien évidemment, le lin, ici dans le Nord particulièrement, est de plus en plus développé. Et moi, des personnes sont venues me rencontrer il y a 2 ans, de cela en arrière, pour voir ce qu'on pouvait faire avec Esmod autour du lin. Eh bien, on l'a fait. Ça a commencé déjà par leur expliquer, donc des spécialistes, auprès de nos étudiants, c'est quoi le lin ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça pousse ? À quelle période ça pousse ? Et à quel moment on peut commencer à prendre le lin ? Comment après, voilà. Et là, donc moi, tout de suite, on a validé. Et ce jardin que là, vous voyez, eh bien, tous les étudiants sont venus, ils ont bêché, ils ont planté des graines, il y a 2 ans, et les petites fleurs bleues, c'était magnifique. Magnifique. Mais on s'est pas arrêté là. Les personnes sont revenues avec d'autres spécialistes, leur ont appris comment nettoyer, et comment créer maintenant. Donc ça aussi, c'est notre rôle. Moi, je n'accepterai jamais un projet, s'il n'est pas éthique, s'il n'a aucun sens pédagogique, aucun sens de vision, et qui est simplement mercantile ou purement la personne qui pourrait proposer, je me récupère moi, la personne qui vous propose, je me récupère pour avoir de la pub. Ça, c'est hors de question. Faut qu'il y ait un intérêt pour nos jeunes, ils imprègnent, ils comprennent. C'est le rôle de l'enseignement, tout simplement. Tout simplement. Il y a de quoi faire ici. On a tout devant nous. Oui, je sais que pour beaucoup, et pour le premier, c'est agaçant de se dire on a tout sur place. Mais merde, faut avoir les... Mais quand on a les... eh ben on y va. Et on le fait.
Donc à Roubaix, il y a d'anciennes friches industrielles qui ont été remises en fonction avec des petites entreprises justement qui travaillent dans ces domaines-là. Je suis allé en visiter une il n'y a pas très longtemps. Ça m'a assez ébloui de voir justement des gens qui retravaillent le lin, par exemple. Hein, mais on,